Vous écoutez, on lit pour vous.
Plus de décès que de naissances au Québec dès 2027. Un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 7 octobre 2024 dans Le Devoir. Le nombre de décès dépassera celui des naissances au Québec à partir de 2027, selon la mise à jour démographique de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, paru lundi le 7 octobre 2024. Malgré cela, le besoin de nouveaux logements continuera de croître à coups de centaines de milliers dans les prochaines décennies à cause d'une immigration révisée à la hausse et d'une population québécoise qui pourrait atteindre 10 millions dans 20 ans. À l'instar de nombreux pays occidentaux, l'accroissement naturel de la population québécoise plafonnera d'ici 3 ans, estime l'ISQ. Il est déjà négatif depuis quelques années au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, en Mauricie et plus récemment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec plus de décès que de naissances, l'augmentation de la population reposera alors exclusivement sur l'immigration partout au Québec. Depuis la dernière mise à jour complète de l'ISQ il y a 5 ans, plusieurs incertitudes ont perturbé les courbes démographiques, en premier lieu l'immigration. L'estimation du nombre de nouveaux arrivants qui s'installent au Québec chaque année est passée de 55 000 à 65 000, observe pour Le Devoir le démographe Frédéric Fleury-Pailleur. Ce n'est pas une recommandation, c'est notre interprétation du contexte actuel. Et ça nous montre où ça nous mène, explique-t-il. En faisant encore moins d'enfants par femme et en ayant une immigration un peu plus faible, la population du Québec pourrait reculer. C'est tout à fait plausible. La régionalisation de l'immigration est l'un des autres grands changements entre les deux récentes études de l'ISQ, celle de 2019 et celle parue lundi. L'explosion du nombre de travailleurs temporaires aux quatre coins du Québec a modifié les perspectives. La région métropolitaine de Québec pourrait ainsi devenir bien plus peuplée. L'ISQ croit maintenant que d'ici 2041, la population de la grande région de la capitale nationale augmentera de 17 % de plus que prévu, soit 149 000 nouveaux habitants. À l'opposé, l'île de Montréal attire de moins en moins d'immigrants et devrait connaître une hausse bien moindre qu'anticipée. La région de recensement montréalaise est la seule qui subit une révision à la baisse, moins 3 %, moins 161 000 habitants. Demande pour les logements collectifs. Le vieillissement de la population a franchi un cap dernièrement. La cohorte des plus de 65 ans dépasse dorénavant celle des 0-19 ans. Dans la foulée de ce vieillissement collectif, les aînés de plus de 85 ans devraient tripler en nombre d'ici quelques décennies. L'ISQ prévoit qu'ils passeront de 209 000 à 583 000 entre 2021 et 2071. L'essentiel de cette hausse sera observable d'ici 2039. Être centenaire deviendra de plus en plus courant. On devrait compter environ 18 500 Québécois de plus de 100 ans en 2071, comparativement à environ 2 300 en 2021. Pour loger tout ce monde, les logements collectifs deviendront incontournables. L'ISQ prévoit que 177 100 nouvelles personnes auront besoin de se loger dans une RPA ou un CHSLD d'ici 2051. Pour loger tous les néo-québécois, les logements privés ne sont pas en reste. Le nombre de ménages au Québec pourrait passer de 3,8 millions en 2021 à 4,7 millions en 2071, une augmentation de plus de 940 000 ménages. Ces perspectives de croissance démographique étaient autrefois réalisées tous les 5 ans par l'ISQ. L'Institut prévoit désormais mettre à jour ses projections chaque année. L'avenir démographique du Québec est, plus que jamais, en constante redéfinition, justifie dans son rapport le statisticien en chef Simon Bergeron. C'était « Plus de décès que de naissances au Québec dès 2027, un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 7 octobre 2024 dans Le Devoir.
Octobre en 40 ans de fugue, politique et musique country, un même combat. Un texte de Benoît Mignot paru le 29 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Deux articles publiés dans un numéro d'octobre de Fugue illustrent bien certains gains que l'on tient pour acquis alors qu'ils ont constitué de petites révolutions il y a quelques décennies à peine. En l'occurrence, être gay dans des secteurs au code masculin très marqué comme la politique et la chanson country. Quand l'arc-en-ciel dit bonjour aux montagnes. En octobre 1994, un article de Fugue évoque un phénomène touchant la musique, qui paraît à ce point exceptionnel que l'article s'interroge même à savoir s'il ne serait pas unique. Doug Stevens, le seul cowboy gay? La question peut sembler étrange, mais force est de constater qu'elle a un fond de vérité puisqu'il semble bien être le premier chanteur country à s'afficher ouvertement, tant dans sa vie personnelle qu'en paroles et en musique. Son premier album, paru en 1993, porte d'ailleurs le titre très évocateur de « Out in the Country », un jeu de mots entre les deux significations de « country », le genre musical et le pays. Bien évidemment, l'histoire de la musique country gay comporte de nombreux autres balbutiements, mais jamais réalisés avec autant d'aplomb et d'appropriation. Un peu d'histoire s'impose cependant. Écrite en 1930, la chanson « Lavender Cowboy » décrit les déboires d'un homme jugé insuffisamment viril puisqu'il n'a que deux poils sur le torse. Cette mention peut paraître anodine, mais l'enregistrement de 1939 de Vernon Dallart fut tout de même banni des ondes en raison d'un contenu inapproprié. Bien que l'homosexualité n'y soit pas clairement exprimée, la référence semble très clairement comprise par le public de l'époque. En 1937, Bob Skiles ajoute même une ligne indiquant que le cowboy était « just a cream puff of the West ». En 1959, une conclusion homophobe est ajoutée par le chanteur Paddy Roberts, où le cowboy, qui se parfume dorénavant au Chanel numéro 5, est abattu en raison de son manque de virilité. « So they shot the lavender cowboy, and they said, as they laid him to rest, you'll be happier now, boy. You can't be a cowboy with only three hairs on your chest. » Dans cette même célébration des clichés, on retrouve également « The Sissy Song », interprété par Billy Briggs en 1951, qui proclame que si on se comporte comme une moumoune, « Sissy », on n'a d'autre choix que de mettre fin à ses jours. Bien que comportant une thématique gay, ces chansons demeurent avant tout un véhicule de dérision au service d'un interprète hétéro. Il faudra attendre 1973 pour voir la production de l'album « Come Out Singin' » par le groupe Lavender Country. Celui-ci n'est cependant imprimé qu'à quelques centaines d'exemplaires par le Gay Community Social Services de Seattle, et on parle donc d'une production quasi confidentielle. On peut y noter une pièce au titre très évocateur, « Crying these cocksucking tears »,« Pleurer ces larmes de suceur de bite ». Les années 70 ont vu quelques interprètes produire des albums country, mais jamais à grande échelle. En 1983, le groupe Romulus sort un album de chansons aux paroles très explicites, dont « Love is just an inch away », mais encore une fois, on parle d'une diffusion très locale. Pour une réelle pénétration du marché, le jeu de mots est intentionnel, il faut attendre 1993 alors que Doug Stevens et The Outband fait irruption sur la scène country et semble être le premier à cocher toutes les cases. 1. Afficher son orientation sexuelle. 2. L'exprimer clairement et non métaphoriquement dans les chansons, et 3. Connaître un succès autre que local. Doug Stevens se consacre au chant classique jusqu'en 1991, alors qu'il apprend à être atteint du VIH, un diagnostic plutôt lugubre à l'époque. Il décide alors de s'orienter vers le country, un genre qui lui apparaît mieux correspondre à son vague à l'âme et à son désir d'affirmation. Les années 90 voient la production de plusieurs albums au titre évocateur. Out in the Country, 1993, HIV Blues, 1993, et When Love is Right, 1995, dans lequel on retrouve la chanson Hang Your Clothes in the Closet. Cette petite révolution ouvrira les portes à une génération de nouveaux interprètes qui, dans les décennies suivantes, afficheront progressivement leurs couleurs. On peut notamment songer au chanteur canadien Orville Peck, dont la voix puissante et envoûtante a conquis les palmarès avec des succès comme Daytona Sand, Let Me Drown, et dont la chanson Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other, interprétée en duo avec Willie Nelson, a marqué l'année 2024. À noter qu'au-delà des interprètes, la musique country a toujours fait frissonner le cœur et frétiller les talons des communautés LGBTQ du Québec. C'est ainsi que, dès le milieu des années 90, Fugue évoque de nombreux événements tenus par des clubs de danse country gay, comme le club Bolo ou les Hors-la-Loi du Faubourg. Spring Stomp 95, juin 1995, le club Bolo Danse Country Montréal, La Balade des gens heureux, février 1997, Du pur plaisir, bilan du congrès de danse country, septembre 2003, Déjà 10 ans, les Hors-la-Loi du Faubourg, avril 2003. Vous écoutez Octobre en 40 ans de fugue, politique et musique country, un même combat. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Rose est la nouvelle couleur du pouvoir. En octobre 1986, un autre article de Fugue attire le regard. Raymond Blain, candidat gay. L'événement est à ce point exceptionnel qu'il est repris, le même mois, dans la revue Sortie. Un conseiller municipal gay ou un gay conseiller municipal? Il faut dire que cette candidature constitue du jamais vu dans le secteur politique, que ce soit sur le plan municipal, provincial ou fédéral. S'afficher aussi ouvertement comportait cependant une part de risque, puisque les années 80 étaient marquées par la crise du sida et que l'on constatait une régression dans l'acceptation de l'homosexualité. Contre toute attente, Raymond Blain est élu et même réélu représentant de la circonscription de Saint-Jacques au conseil municipal de la ville de Montréal, de 1986 à 1992. À ce titre, il constitue le premier candidat ouvertement gay à avoir été élu à un poste politique, que ce soit au Québec ou sur l'ensemble du territoire canadien. Au cours de ses mandats, il s'illustre dans des dossiers touchant de près les communautés LGBTQ comme l'implantation de la ligne Infodrogue, l'adoption d'un programme de lutte contre le sida, la création de maisons d'hébergement pour les personnes vivant avec le VIH et la mise en place du Parc de l'Espoir, situé en plein cœur du village. Après son décès en 1992, des suites du sida, un parc est nommé en sa mémoire, sur la rue Panay, entre La Fontaine et Logan. Article « On se souvient de Raymond Blain », juillet 2012. Il faut noter qu'en octobre 1982, la revue Sortie présente un portrait du politicien de Colombie-Britannique Sven Robinson. Sven Robinson, ni faux-semblant, ni proclamation, où celui-ci professe son attachement aux luttes gays. Ce n'est cependant que 6 ans plus tard, soit en 1988, qu'il affiche clairement ses couleurs et devient alors le premier politicien à faire sa sortie du placard alors qu'il est toujours en poste. Raymond Blain occupe la première place dans une autre catégorie, celle d'un candidat élu alors que son orientation sexuelle était déjà connue du public. Au fil des années, plusieurs politiciens, politiciennes des communautés LGBTQ prendront la parole dans Fugue, tels que, au hasard, Claude Charon, ennemi public numéro 1 de la médiocrité, février 1988. Réal Ménard, mise à nu, août 1995. Louise Roy, la femme aux mille défis, mai 1999. Jacques Gill de Saint-François-du-Lac, dans le comté de Yamaska, un maire gay en région, c'est possible, juillet 2000. Le village a besoin d'amour. Manon Massé, co-porte-parole de QS et députée. Juillet 2019. Ailleurs dans l'actualité. En octobre 2002, la lutte pour le mariage inclusif prend un tournant décisif. Mariage gay, la Cour supérieure donne raison au couple Hendricks-Leboeuf. Et le ton est même résolument optimiste. Le jugement de la Cour supérieure concernant le mariage, si la tendance se maintient, nous pourrons nous marier dans 2 ans. Malgré quelques brouhahas, mariage entre conjoints de même sexe, le ton monte dans le débat sur le mariage gay au Canada, octobre 2003, c'est en 2005, soit 3 ans plus tard, que la loi fédérale sur le mariage civil entre en vigueur. Le 10 octobre 1953, ICI Montréal révèle que, de 4h30 à 6h p.m., les habitués de la place d'Armes voient toujours les mêmes visages à l'entrée des Vespasiennes, et que les fifis ont élu domicile dans un club du voisinage de l'hôtel Mont-Royal. Une semaine plus tard, le 17 octobre, le même magazine nous glisse que une nouvelle mode vient d'être lancée chez les homosexuels de la métropole, celle de porter une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Le 23 octobre 1953, ICI Montréal remballe avec une nouvelle scandaleuse. « J'ai assisté à des fiançailles d'homosexuels. Ces dépravés se jurent fidélité dans des orgies sans pareil. » Finalement, le 6 octobre 1956, un homme épanche son cœur dans le même magazine. « Dans l'Ouest, ma chère, un homme d'affaires de la rue Terrebonne constate que le cercle de bridge de sa femme était un club de lesbiennes. » Sur une note plus spirituelle, le Berdache d'octobre 1979 consacre un numéro entier au thème des relations conflictuelles entre Église et homosexualité, et sur une note plus mercantile, le même numéro révèle que McDonald's Canada a déposé une requête en injonction pour empêcher l'ouverture d'une discothèque gay au-dessus d'un resto situé au Square de Mignonne dans un article au titre savoureux « Big Mac Attack ». C'était « Octobre en 40 ans de fugue, politique et musique country, un même combat ». Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Anticosti au patrimoine de l'UNESCO, il reste beaucoup à construire. Un texte d'Alban Normandin, paru le 19 septembre 2024 sur ICI Côte-Nord. Un an après avoir été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'île d'Anticosti fait face à de nombreux défis pour répondre aux attentes de la communauté internationale. Faute de ressources et de logements, la municipalité aura besoin de davantage de fonds et d'accompagnement pour mener à bien son mandat en tant que site patrimonial selon la mairesse. Cette visibilité, qui est internationale, exerce une grande pression sur la municipalité, constate la mairesse d'Anticosti, Hélène Boulanger. Selon elle, les initiatives de développement découlant de l'inscription de l'île au patrimoine mondial de l'UNESCO se heurtent aux réalités de l'île et de la petite municipalité. Ici, c'est un petit milieu, une petite population. Il n'y a pas de logement. Il va falloir construire des infrastructures, aller chercher des terrains, chercher des subventions, énumère la mairesse. Si on pense à la dernière année, ça a un peu exacerbé cette pression-là, ajoute-t-elle. La tâche de mise en valeur du site patrimonial de l'UNESCO est l'un des principaux défis auxquels fait face la petite communauté, dont la population oscille entre 150 et 200 habitants. Lorsqu'on est inscrit sur la liste du patrimoine, ça vient avec des attentes très, très élevées, explique le géologue et directeur scientifique pour la mise en valeur d'Anticosti comme site patrimonial de l'UNESCO, André Desrochers. Il y a essentiellement trois piliers importants pour un site patrimonial de l'UNESCO. La protection et la conservation à long terme du site, qu'on doit assurer, et on doit aussi le mettre en valeur, dit-il. Après avoir délimité le site patrimonial à protéger et embauché une petite équipe de spécialistes comprenant des géologues, des biologistes et des techniciens de la faune pour veiller à sa conservation, l'île doit mettre en œuvre son mandat de mise en valeur en construisant notamment un centre d'interprétation et un centre de recherche. La construction de ces infrastructures, qui seront coûteuses en raison de la nature insulaire du territoire, ainsi que la nécessité de pérenniser le financement des opérations de mise en valeur, sont des enjeux à long terme, indique André Desrochers. De son côté, la mairesse du village indique que les difficultés de la municipalité sont reconnues par le gouvernement provincial. D'ailleurs, celui-ci a formé un comité interministériel pour apporter de l'aide à la municipalité, rappelle Hélène Boulanger. Une société de gestion toujours sans direction. Depuis quelques années, des activités de mise en valeur du patrimoine de l'île ont été élaborées telles que des causeries. Ces activités ont accueilli environ 2000 visiteurs en 2024, dont des chercheurs des universités de Yale, de Ghent et de Strasbourg, ainsi que des représentants du Musée américain d'histoire naturelle de New York, indique André Desrochers. Cette société va avoir comme mandat de mettre en valeur Anticosti, sa valeur universelle, les valeurs locales et de façon permanente avec un conseil d'administration et une direction générale qui devrait être nommée dans les prochains jours, sinon dans les prochaines semaines, dit-il. Pour la suite des choses, il reviendra à la Société du patrimoine mondial Anticosti, SPMA, un OBNL nouvellement formé, de chapeauter l'ensemble des futurs travaux pour faire rayonner le patrimoine de l'île qui abrite des fossiles vieux de plus de 400 millions d'années. Toutefois, cette société, disposant d'un cachet d'environ 14,2 millions de dollars du gouvernement provincial, n'a toujours personne à sa tête. Cette personne, quelle qu'elle soit, aura besoin d'aide et d'aller faire des embauches, estime la mairesse. Après avoir obtenu un financement de Québec, la municipalité entreprend actuellement des démarches pour obtenir une aide financière fédérale puisque ça ne peut pas être que le poids apporté du provincial, juge la mairesse. Questionnée au sujet d'un appui financier potentiel, Parc Canada n'a pas été en mesure de répondre à nos questions. C'était Anticosti au patrimoine de l'UNESCO, il reste beaucoup à construire, un texte d'Alban Normandin, paru le 19 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord.
Le Yukon se défend du temps que prennent les travaux à la mine Eagle. Un texte de Sarah Zenos, paru le 20 septembre 2024 sur Ici Grand Nord. Dans sa plus récente mise à jour, le gouvernement du Yukon justifie le temps que prennent les travaux sur le site de la mine Eagle et assure que tous les efforts sont mis en place pour préparer la mine avant l'hiver, tout en assurant la protection de l'environnement. Citation. « Nous estimons qu'il faudra 4 semaines pour construire la berme. » Fin de citation, dit la responsable de l'octroi de permis minier majeur pour le gouvernement du Yukon, Erin Dowd. À la mi-juillet, le gouvernement avait soumis une directive à la minière Victoria Gold pour que soit construite en 5 jours une berme assurant un accès sécuritaire près de la zone du glissement de terrain. La minière n'avait pas été en mesure de respecter l'échéancier, ce qui avait poussé le gouvernement à se tourner vers les tribunaux pour exiger une mise sous séquestre de la compagnie. Depuis, les travaux se poursuivent, mais la berme n'est toujours pas terminée. Citation : Il y avait des inquiétudes relatives à la santé et à la sécurité qui ne pouvaient pas être ignorées par le gouvernement. Fin de citation, explique la sous-ministre de l'Énergie et des Mines, Lauren Haney, évoquant le fait que l'hébergement n'était pas adéquat. Citation : Nous prévoyons de faire des quarts de travail en double rotation en raison de la luminosité. Maintenant que la lumière du jour est réduite, ce n'est pas sécuritaire de travailler près du glissement de terrain sans avoir de surveillance visuelle. Fin de citation, explique de son côté Erin Dowd. Près de 150 personnes sont actuellement sur place pour mener à bien les travaux de réparation à la Main Eagle, selon le séquestre PricewaterhouseCoopers. Une course contre la montre avant l'hiver. Citation : Pour l'hiver, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites avant que le gel ne survienne. Fin de citation, souligne Erin Dowd, ajoutant que les tuyaux et les pompes doivent être isolés, que l'eau doit pouvoir être déplacée autour du site malgré le froid et que des bassins d'entreposage doivent encore être construits. Citation : Les bassins sont presque au maximum de leur capacité. Fin de citation, dit-elle. Citation : En ce moment, nous ne sommes pas en mesure de traiter l'eau contaminée ni de la déverser. C'est pourquoi nous visons un plus grand volume d'entreposage. Fin de citation. Le gouvernement assure que 18 puits souterrains ont pu être installés ces dernières semaines afin d'accroître la surveillance et l'interception de l'eau contaminée. Des finances suffisantes pour les travaux cet automne. Pour la première fois depuis la mise sous séquestre de Victoria Gold, ordonnée le 14 août par la Cour supérieure de justice de l'Ontario, le séquestre judiciaire PricewaterhouseCoopers était présent à la conférence de presse. Citation : La priorité, ce sont les travaux d'urgence à terminer avant l'hiver et le financement est assuré pour cela. Un plan à long terme est en place pour déterminer ce qui doit être fait ensuite. Fin de citation, souligne la vice-présidente du Conseil et de la restructuration de PricewaterhouseCoopers, Michelle Grant. Elle confirme également qu'aucun créditeur n'a été payé pour le moment, mais que tous les travaux réalisés et les services livrés à la suite de la mise sous séquestre le seront. Personne à la direction de Victoria Gold n'a obtenu d'indemnité de départ, précise-t-elle aussi. La caution de sécurité de la mine n'a pas encore été touchée. C'était « Le Yukon se défend du temps que prennent les travaux à la mine Eagle », un texte de Sarah Zenos, paru le 20 septembre 2024 sur Ici Grand Nord.